7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Quand le handicap s'immisce dans la famille, se fait sa place, renverse les schémas établis, les plans de vie dessinés, imaginés jusque-là, amène avec lui le doute, la culpabilité d'abord, avant de laisser place à autre chose. Comment accepter le handicap de son enfant? Comment grandira-t-il avec sa différence et avec tous ses regards posés sur lui? Comment éviter alors le repli sur soi ou l'oubli de soi? De nombreux parents sont contraints d'arrêter de travailler pour s'occuper de leur enfant handicapé. Bref, comment en somme mieux vivre le handicap au sein de la famille? Votre fils est un vivant poème. Frédéric Préel, bonjour.
Bonjour.
Toi, mon vivant poème, c'est le titre du livre que vous écrivez, notamment en l'adressant à votre fils, porteur d'autisme et de dyspraxie. Vous êtes par ailleurs journaliste, rédactrice en chef du magazine Version Fémina. Bonjour Anne Juventini Bernadou.
Bonjour.
Vous êtes mère de deux filles dont l'une est atteinte d'une maladie orpheline et de troubles de la sphère autistique. Vous êtes également coach, thérapeute familiale et vous publiez le livre « Accueillir un enfant différent en famille ». Et bonjour Luc Gâteau.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'UNAPI, Fédération française d'associations de représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles. Alors et vous, les voisins, les voisines, si vous êtes concernés, si vous êtes parents d'un enfant porteur de handicap, moteur ou mental, ou bien en couple avec une personne handicapée, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Et puis n'hésitez pas à nous appeler aussi si vous êtes vous-même en situation de handicap et parent. On vous entend. Je vous redonne le numéro au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Bonjour, je m'appelle Kim, je suis porteur de trisomique 21, je m'entends bien avec ma famille, mes parents sont attentionnés, mon frère me taquine beaucoup et mon père aussi. Je fais de l'accompagnement auprès des personnes âgées, je fais de la natation et aussi de l'art plastique.
L'arrivée de Kim a bouleversé notre vie de famille dans le sens où, dans un premier temps, bien évidemment, il y a ce phénomène de sidération puisqu'on ne s'y attend pas. Et dans un second temps, cette phase où l'on vit le handicap qui nous arrive comme une véritable épreuve, en ce sens qu'elle anéantit tous les repères familiaux que l'on avait auparavant. Parce que face à ce handicap, on imagine bien sûr que notre enfant est un enfant hors norme, dans lequel, en tant que parent, en tant que frère et sœur, en tant même que famille au sens large, on ne se reconnaît pas dans cet enfant. Donc il y a tout un travail personnel à faire pour arriver à une forme d'acceptation. Il n'y a pas du tout de point de reconnaissance face à cet enfant, donc bien évidemment, il faut intégrer la notion de handicap. Personnellement, nous sommes une famille gaie, heureuse, et cet enfant, qui est porteuse de trisomie 21, nous apporte beaucoup, beaucoup de joie.
Tout va bien pour moi, vive la vie!
Joli message laissé sur WhatsApp par deux voisines, Kim et sa mère, Patricia. Je vous ai vu sourire, Anne Juventini Bernadou. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ah ben ça m'inspire toute la fraîcheur, en fait, voilà, et la joie qui est évoquée. Ça m'invoque effectivement la résilience, c'est possible, c'est-à-dire la capacité à naviguer dans les torrents. Ce qu'évoquait cette mère, effectivement, au travers du cataclysme, moi je dis le handicap, c'est un peu comme une catastrophe naturelle, ça vous tombe dessus, vous n'aviez pas prévu. Effectivement, ça ressemble plutôt à une tsunami ou à des sable mouvant. Et malgré tout, voilà ce que dit cette maman, c'est très vrai, hein, c'est que d'abord on est inquiet à cause des repères et des normes de cette société dans laquelle on voit très vite que notre enfant ne va pas se retrouver. C'est la première chose qui nous inquiète. Et puis ce travail personnel, c'est vrai que c'est vraiment un travail sur soi en réalité. Hein. L'accueil d'un enfant différent, c'est...
D'où le terme de résilience.
Tout à fait. En fait, c'est pas seulement... Il y a un combat qu'on met d'abord un peu à l'extérieur. On se dit qu'on va se battre contre tous ceux qui veulent pas accepter notre enfant. Mais en réalité, le vrai combat est celui qui nous permettra de rebondir. Il se trouve à l'intérieur de nous. Et donc, quand elle parle de ce travail intérieur, c'est vrai que j'y retrouve le discours des familles. Et puis enfin, voilà, quand elle parle du bonheur et de la joie, oui, on peut être heureux, évidemment, malgré le cataclysme et grâce à ce travail intérieur. Donc voilà.
Alors vous dites que vous n'employez jamais le terme d'enfant handicapé. Pour vous, votre fille, Julia, qui a 11 ans, ne se définit pas par son handicap. Elle a des handicaps, en l'occurrence des troubles de la sphère autistique, de l'hyperactivité. Pour vous, les mots sont importants?
Oui, les mots, c'est jamais un détail. En fait, on est toujours le diable et dans les détails. Donc c'est différent d'avoir un handicap et d'être handicapé, parce que ça veut dire qu'après, on résume vraiment la personne à une situation. Je trouve que c'est terrible. Nous-mêmes, hein, on n'est pas seulement grand, petit, beau, intelligent. On est plein de choses. Et pourquoi on réduirait les personnes qui vivent avec un handicap à ce handicap? Donc moi, je parle toujours de personnes qui sont porteurs de handicap ou qui sont avec un handicap. Et je trouve que c'est très important. Même le mot « personne handicapée », moi, déjà, me gêne. Mais bon, après, je comprends qu'on puisse considérer que finalement, c'est un peu du snobisme. C'est pas du déni, c'est juste de constater la réalité de la richesse de la personne qui se résume jamais à une seule chose.
Et vous parlez de cataclysme, de tsunami. Comment on réagit à l'annonce du diagnostic ?
D'abord, je crois que la sidération, surtout quand l'annonce... Parce qu'en fait, il n'y a pas toujours d'annonce en réalité. Hein. Il y a des cas où il y a des annonces. Et là, effectivement, quand l'annonce arrive brutale avec un mot et des perspectives assez claires dès le début, c'est vrai que c'est la sidération qui prime. Et après cette sidération, vous avez deux familles. Vous avez la famille de ceux qui vont sombrer dans une forme de dépression, en tout cas dans une infinie tristesse, et ceux qui vont tomber dans la colère, en fait. Et bon, j'ai eu un couple, d'ailleurs, où lui était très, très triste et elle très en colère, c'était pas simple à gérer. Mais c'est vrai que voilà, on a une émotion primitive qui va s'installer, c'est souvent de l'ordre de la tristesse ou de la colère. Ça, c'est quand il y a une annonce. Quand il n'y a pas d'annonce, finalement, c'est nous-mêmes qui devons petit à petit mettre des mots sur la différence de notre enfant et finir par y mettre l'étiquette de handicap. Là, c'est encore autre chose, c'est beaucoup de confusion, c'est beaucoup de culpabilité.
Il faut mener l'enquête longuement.
Oui, c'est très très difficile, c'est un deuil difficile, c'est un peu comme quand on a une personne qui est malade et dont on sait qu'elle va mourir et qu'on finalement on fait un deuil des vivants et qu'on ne sait pas si on est dans le deuil, on n'est pas dans le deuil, on est dans cette espèce d'inconnu. Je ne sais pas si c'est plus simple ou plus compliqué, mais en tout cas c'est différent.
Frédéric Préal, vous, ce sont les mots d'une amie qui vous ont d'abord mis en colère hein, et puis qui vous ont ensuite permis de comprendre, d'accepter que votre fils Simon était porteur d'autisme. Pendant un dîner entre amis, elle vous a dit « tu vois bien qu'il est différent, qu'il a un problème ». Jusque-là, vous étiez plutôt dans un certain déni.
Oui, il y avait eu des petits signes, en fait, à la crèche. On nous avait dit qu'il faudrait qu'on voie la psychologue. Puis à l'entrée à l'école, l'enseignante, au bout d'une semaine, nous avait dit soit il entend rien, soit il comprend rien. Donc, et nous, en fait, quand on a vu cette amie qui habitait en Suisse, c'est vraiment nos meilleurs amis, on critiquait le système scolaire français en disant ben voilà, quand on n'est pas dans le moule, il suffit d'être un tout petit peu différent. Et puis... de pas correspondre exactement à ce que les enseignants attendent. Et puis voilà, on n'en veut pas. Et c'est elle qui nous a dit, mais vous voyez bien qu'il est différent. Et là, avec mon mari, on s'est regardé, on est parti se coucher. Une fois qu'on était que tous les deux, pendant toute la nuit, on a dit oui, et sa fille est obèse, et est-ce qu'on s'en met? Enfin, on était vraiment en colère, méchant. Et puis le matin, j'ai appelé un psychiatre et j'ai pris rendez-vous. Donc ça avait fait son chemin, effectivement. Mais ça pouvait... Ce qu'elle nous a dit, c'était pas différent de ce que nous avait dit l'enseignante. Mais ça venait de quelqu'un qui nous aimait et du coup, on l'a écouté.
Et vous avez commencé à accepter.
Ouais.
Luc Gâteau, vous-même, vous êtes le père d'une fille qui a aujourd'hui 28 ans, porteuse de trisomie 21 avec des troubles du comportement. Comment vous l'avez accepté, ce handicap-là?
Alors, si vous me parlez de moi personnellement, c'est une acceptation que je n'ai pas l'habitude de diffuser. C'est une adoption d'un quatrième enfant. Après trois enfants, donc en tant que personne, c'est une acceptation complète au sein d'une famille, un choix. Hein, mais je n'en parle pas par peut-être par pudeur, pas beaucoup, mais ça me permet aussi d'apporter un regard pour tous ceux qui ont toutes ces difficultés, j'irais d'acceptation, de pouvoir me dire bon, tu es là pour pouvoir donner un autre regard sur l'enfant différent qui arrive et qui est plutôt, quand on regarde bien, comme je dis souvent, Jessica, elle a quelque chose de plus. Elle apporte quelque chose en plus.
Il y a cette phrase, Anne Juventini-Bernadou, qui est souvent assénée maladroitement par des spécialistes. Il faut faire le deuil de votre enfant. Comment vous la comprenez, cette phrase ?
Alors ça, c'est la phrase qui me met le plus en colère, en fait. Parce que je ne comprends pas comment on peut dire à un parent « faites le deuil de votre enfant ». Enfin, c'est sidérant, quoi. Je pense qu'on a dû apprendre ça dans les facs de psycho, ou je ne sais pas, on a dû penser que c'était la phrase magique. Et c'est vrai que pour les médecins, il faut reconnaître ce qui est. C'est très dur d'annoncer cette chose-là. Et je pense que beaucoup se cachent finalement derrière cette phrase, vous assèdent « mais vous savez, il faut faire le deuil de votre enfant ou de l'enfant idéal ». Bah non, évidemment qu'il ne s'agit pas de faire le deuil de son enfant. Par contre, il y a un deuil à faire, c'est clair, mais c'est plutôt le deuil de la vie telle qu'on l'avait prévue, de ce qu'on avait projeté peut-être, soit dans cet enfant, soit tout simplement ce qu'on a projeté dans une vie idéale pour nous. Évidemment, les réaménagements nécessités par le handicap nécessitent de faire le deuil de ça. Maintenant, le deuil de son enfant, je trouve cette phrase cruelle et j'espère que... Voilà.
Ah, moi, je l'ai entendue aussi.
Cédric Préel.
Ouais, ouais. C'est vraiment quelque chose... C'est le moment le pire de notre parcours, c'était cette phrase-là. Parce que je suis sortie, là j'étais en pleurs, mon mari me soutenait. Enfin, j'étais vraiment. C'est le seul moment où j'ai vraiment eu une sorte de désespoir, en fait. Et puis après, le lendemain, déjà, j'étais dans la recherche de solutions. Mais...
Et vous avez...
Mais c'est dur cette phrase, ouais.
Réussi à accepter malgré cette phrase. Vous nous appelez les voisins, les voisines pour vos témoignages au 33 1 84 22 71 71 et nous allons accueillir une voisine tout de suite.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Bonjour Abinata.
Oui, bonjour.
Vous êtes en région parisienne. On vous écoute, Aminata.
Oui, bonjour tout le monde. Bonjour les auditeurs, les auditrices. Je m'appelle Aminata. J'ai 32 ans, j'ai 4 enfants. Je suis maman de 3 garçons et une petite fille. Et c'est mon dernier de 4 ans qui s'appelle Macan, qui est en situation de handicap.
Qui a été hospitalisé les 6 premiers mois de sa vie, c'est ça ?
Oui, à l'hôpital Robert Debré en réanimation pédiatrique. Voilà, c'était 6 mois vraiment où notre vie elle a été bouleversée. Là, j'ai découvert vraiment le monde de l'hôpital, le monde du handicap. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là que notre vie elle a changé pour tout le monde, en fait.
Et quel est son handicap ?
Alors, mon fils, il avait une trachéotomie. C'est une incision au niveau de la trachée qui nécessite des soins quotidiens, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et une gastrostomie. Voilà, il est nourri par une sonde gastrique. Et voilà, j'étais infirmière, médecin, orthophoniste, kiné. Voilà, je faisais tout, en fait.
Vous avez dû arrêter de travailler pour vous occuper de lui ?
Ah oui, complètement. Ma vie, elle est complètement dédiée à lui. Je ne peux pas travailler. C'est impossible de travailler. Voilà, ça implique des changements sur ma vie, au niveau financier. Surtout sur ma vie professionnelle, tout est mis entre guillemets. On ne peut pas travailler, en fait.
Quel travail vous faisiez auparavant ?
J'étais assistante administrative. Et entre parenthèses, à côté, je voulais passer mon concours d'infirmière. C'est un peu l'ironie du sort, mais bon, voilà, c'est impossible. Je ne pourrais pas préparer mon concours d'infirmière alors que je devais m'occuper de mon fils 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La nuit, je n'ai pas de repos, en fait.
Et aujourd'hui, donc, il a 4 ans ?
Oui.
Et il va à l'école ?
Oui, il va à l'école. C'était difficile de le faire intégrer. Quand on a un enfant en situation de handicap, déjà, c'est difficile au niveau de l'école. La prise en charge, il faut expliquer. Après, là, j'ai découvert cet envers-là que je ne connaissais pas du tout. Le regard des autres, parce qu'après, là, à partir du moment où mon fils il va à l'école, avant qu'il aille à l'école, je pouvais le garder à la maison, je pouvais le préserver un peu. Mais après, une fois qu'il va à l'école, alors là, il y a toutes les questions. Oui, qu'est-ce qu'il a ? Il se comporte bizarrement. Voilà, on a beaucoup de remarques très désobligeantes qui font super mal en tant que maman. Et franchement, c'était difficile. Il a une AVS. C'est-à-dire une auxiliaire qui s'occupe de lui comme il ne parle pas.
Une auxiliaire de vie scolaire.
voilà, qui l'aide à l'école, comme il ne parle pas, elle est présente pour lui, pour faire les gestes du quotidien, voilà, pour pas que les autres, ils l'embêtent trop aussi, parce que les autres, ils avaient tendance, bah, voilà, ils comprenaient pas trop, les enfants, ils sont petits.
Et il est muet, aujourd'hui ?
Non, il est pas muet, il parle, mais c'est vrai qu'il a un retard de langage. Mmh. Voilà, il ne parle pas, il a un retard de langage. Et c'est vrai qu'il communique par la langue des signes et il a un classeur texte. Franchement, je suis contente quand même d'avoir certains moyens pour qu'on puisse communiquer avec lui.
Et vous êtes seule, en fait, Aminata, à vous occuper de lui ?
Je suis avec son papa, mais on est tous les deux désemparés, en fait. C'est-à-dire qu'on est au quotidien, bah, c'est nous qui faisons tout, en fait. C'est-à-dire quand il avait sa trachéo, bah, on était là, on était les infirmiers, on était les médecins réanimateurs. À la maison, on a tout le matériel. C'est comme à l'hôpital, en fait.
Et comment vous le vivez ? Comment vous vivez cette situation ? Qu'est-ce que vous ressentez ?
Au début, c'était difficile parce qu'en tant que mère, mon fils, il est né, il n'est pas rentré à la maison. Quand j'ai accouché, je suis rentrée toute seule à la maison. Il a passé 6 mois à l'hôpital. J'ai pas eu le temps de. En fait, c'est comme si on m'avait pris mon enfant. C'était difficile. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis super contente d'avoir mon fils. Et en fait, ça m'a permis de voir autre chose, de comprendre le handicap, d'être beaucoup plus tolérante et de pouvoir aussi aider les parents qui sont dans cette situation-là. Parce que bon, on est isolé en fait. Quand on est parent d'un enfant handicapé, on est isolé. Mais le souci, c'est qu'en fait, on n'est pas des robots. Surtout nous, les mamans, on est en première ligne. Voilà, c'est difficile. Et après, bon, moi, c'était difficile physiquement aussi. Quand on tombe malade, ben voilà, on est obligé de s'occuper de son enfant. Et de devoir faire appel à des aides à domicile et des personnes, voilà, pour nous aider au quotidien, c'était nécessaire. Et à un moment, je me suis dit stop, je ne peux plus. Et là, c'est à partir de ce moment-là, on se remet en question, on se dit, voilà, bon, on n'est pas des robots, on n'est pas, voilà, on n'est pas des superwomen, mais c'était très difficile. Et là, alors d'aujourd'hui, franchement, je le vis bien, parce que je vois que mon fils, il grandit bien. Et même malgré que, voilà, il y a encore des remarques, voilà, les gens, ils comprennent pas forcément le handicap, ils ont peur du handicap, en fait. Mais même au niveau de la société, c'est vrai que nous, on n'est pas reconnus, les parents d'enfants en situation de handicap, on n'est pas reconnus en tant qu'aidante familiale. Et ça, je trouve que c'est pas normal, en fait, vu que je peux pas travailler, j'ai mis ma vie entre guillemets, c'est à dire que là je peux pas travailler, mais je cotise rien pour ma retraite, alors que si on s'occupe d'un autre membre de la famille au niveau de la France, si on s'occupe d'un autre membre de la famille, ben là on peut avoir droit voilà à cette cotisation là en fait. Et c'est pas logique, en fait,
alors que vous êtes aidante à temps plein. Merci beaucoup Aminata pour votre témoignage. Vous voulez réagir?
Oui, mais d'abord, féliciter Aminata, parce que quand on vit ce qu'elle a traversé avec un enfant de 4 ans, réussir à avoir autant de recul par rapport à la situation, déjà, c'est une belle preuve de résilience. Et c'est vrai que je partage tout à fait ce qui a été dit sur le regard des autres et sur la peur du handicap, en fait. Moi, je dis maintenant que changer ma fille, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir et que peut-être ça sera plus facile de changer la société. Parce qu'en réalité, et ça, on en discutait avec Frédéric hein, avant l'émission, de se dire que bah, si on était sur une île déserte avec notre enfant, probablement, il n'y aurait aucun problème en réalité. Dans la relation cœur à cœur avec notre enfant, tout va bien. Ce qui est problématique, c'est effectivement comment la société reconnaît notre enfant, comment elle l'accueille et comment elle nous aide en tant qu'aidant à vivre la chose du mieux possible, à pas nous mettre nous aussi dans la marge, quoi. Et je crois que ce qu'elle est en train de vivre Aminata, et ça c'est un vrai combat, je pense, qu'il faut qu'on ait pour les aidants, c'est leur donner les moyens financiers et aussi l'accompagnement qui leur permet de survivre à cette épreuve.
Hein. Ne pas être isolé. Luc Gâteau, ouais. On peut lire plusieurs témoignages de parents désespérés, hein, de parents d'enfants handicapés au sein d'un livre édité par l'UNPI, donc la fédération que vous représentez. Et par exemple, celui de cette mère de famille qui dit qu'elle a lu qu'un jour que les parents d'enfants handicapés avaient un niveau de stress équivalent à un soldat sur le champ de bataille.
C'est
et que ça lui parlait.
C'est tout à fait ça. Et je crois que le témoignage là, met en lumière l'isolement. L'isolement des personnes et les effets multiples que sont obligés de faire les parents, les mères, très certainement, hein, qu'il faut se mettre à infirmière, il faut se mettre à plein de choses pour pouvoir accompagner et la société n'a pas, dès le plus jeune âge, véritablement de réponse d'accompagnement. Hein, il faut créer dans nos associations des lieux de rencontre. Il y a encore beaucoup à faire, hein, parce que c'est encore... On va s'occuper beaucoup d'institutions, mais c'est déjà quand un peu plus âgé. Moi, j'ai vécu un service qui s'appelle CESAD qui intervient à domicile, et déjà un regard sur une professionnelle qui vient parler simplement à la maman et au papa pour indiquer comment s'y prendre, mais en même temps la société n'est pas là véritablement pour intégrer.
Alors, comment devenir parent quand on est porteur de handicap? On n'a pas encore abordé cette question dans 7 milliards de voisins. Reportage à suivre.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi?
Lauriane et Karim, la trentaine, habitent en Normandie. Lauriane, en fauteuil roulant, travaille dans les ressources humaines. Karim, lui, dans le transport à la personne. Depuis 6 mois, ils sont parents de la petite Lilia, les cheveux roux et les yeux clairs. Récit de famille au micro d'Alice Minot.
Je ne sais pas, 9h30, non?
Ah ouais, elle a dormi un petit peu, en fait.
Qu'est-ce que tu racontes?
J'ai une amyotrophie spinale infantile. C'est une maladie génétique rare. J'ai une force musculaire qui est extrêmement réduite. Et la conséquence, c'est que je me déplace en fauteuil roulant électrique. Mes parents m'ont toujours poussée à avoir une vie normale. J'ai été dans une école normale avec des élèves ordinaires qui marchent, qui ont des souhaits et des envies ordinaires. On parlait avec mes copines quand j'étais au collège. Ah, moi, quand je serai maman, je ferai comme ça. J'ai toujours joué avec des poupées en me disant, moi aussi, un jour, j'aurai mon bébé. Donc, avoir un bébé faisait partie de la continuité de ma vie. Comme avoir un travail, comme avoir une maison, finalement, c'est pouvoir faire comme tout le monde. Coucou, Didine. Coucou, bébé. Un bisou.
On va prendre un bon bain cet après-midi, ça va te faire du bien.
J'ai rencontré Karim en 2004 lors d'un voyage avec ma famille. Et lui, il était aussi avec sa famille en voyage. On partait tous les deux au Maroc et on s'est retrouvés dans le même avion. Du coup, on a fait connaissance à ce moment-là. On s'est perdu de vue et via les réseaux sociaux. On s'est retrouvés en 2012 et depuis, on ne se quitte plus. Moi, depuis toujours, je savais que je voulais être maman. Je le ressentais à l'intérieur de moi. J'avais juste la crainte de jamais trouver la personne qui accepte de construire ce projet avec moi, parce que mon handicap est tellement lourd qu'il fallait que je rencontre une personne qui soit capable de gérer pour deux. Il fallait qu'il s'occupe de moi pour tous les actes de la vie quotidienne, à savoir tout, la douche, l'habillage, m'aider à préparer les repas, m'accompagner si je veux aller quelque part. Donc rajouter un enfant à cette vie, c'était nécessairement un sacrifice de sa part. Et puis finalement, je suis tombée enceinte en mai 2017.
Est-ce que parmi les craintes que vous aviez celle de transmettre votre maladie à votre fille, puisque c'est une maladie génétique?
En fait, quand on s'est mis en couple avec mon compagnon, on a tout de suite fait faire le test à Karim pour vérifier qu'il n'était pas porteur de la maladie. Et il s'avère qu'il n'était pas porteur. Donc, pas de crainte de transmettre la maladie. Mais moi, j'ai quand même du stress. Tant que je ne la verrai pas marcher, j'aurai quand même du stress. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne supporterai pas qu'elle soit malade.
Tu t'allonges vite fait, je te la pose, je vais prendre la chaise.
Comment assumer sa maternité, sa parentalité? C'est aussi une question qui se pose quand on est porteur de handicap. Anne Juventini Bernadou, je vous ai vu prendre plein de notes pendant ce reportage et sourire.
Oui, je souriais parce qu'en fait, je pense que Lauriane avait déjà la réponse dans son cœur. Elle savait que c'était ce qu'elle voulait. Pour moi, ça renvoie à l'importance de toujours croire en fait dans la possibilité du bonheur et dans ses possibilités. Quand on a un handicap, et on voit, moi je relais souvent des vidéos où on voit des choses qui sont incroyables. La semaine dernière, je voyais une jeune femme qui est IMC, infirme moteur cérébral sévère, et qui chante, mais c'est très émouvant. Une autre enfant qui est trisomique et qui fait de la peinture. Mais au final, je crois que la plupart des limites, elles sont quand même aussi beaucoup dans nos têtes. Il ne faut pas se laisser envahir par ce qu'on nous propose quand on a un handicap.
Et moi, mon fils, il veut être chanteur et jamais je lui dirais « non, ce n'est pas possible ». Enfin, c'est ça qui anime sa vie, c'est ça qui le fait avancer, c'est ça qu'il fallait...
Et vous dites qu'il a l'oreille musicale, d'ailleurs.
Il a l'oreille musicale. Là, il a fait son premier concert de rock là, au mois de juin. Il y avait 300 personnes qui venaient.
À 11 ans, c'est
voilà.
Pas mal.
Oui. Et donc, voilà, il fait... Il prend des cours de clavier, il prend des cours de chant. C'est plus dur pour lui que pour un enfant, on va dire, ordinaire. Mais il s'accroche et c'est ça qui le fait avancer. Et ça, c'est son rêve. J'interdis à quiconque de le casser.
Il y croit et vous y croyez aussi. Les voisins, les voisines, vous restez avec nous dans 7 milliards de voisins. On va continuer de parler du handicap qui pèse dans la vie de famille. Mais d'abord, c'est pas ta faute sur RFI. C'est signé M.
Comme un poison dans l'eau. J'interprète tes soupirs, tes sourires me font peur. C'est pas ta faute si celle tempête, la marée haute dans ta tête, ça tangue et tu t'en veux. Amarrer comme tu peux, côte à côte. J'ai envie d'aller vers ton unique univers. Effaré par ta lumière, l'air de rien, tu m'éclaires. Là où je rame pour te plaire. C'est pas ta faute si c'est la tempête, la marée.
Avant que le handicap ne fasse irruption dans nos vies, on préférait ne pas accepter qu'il existe, lui qui a priori nous effraie. Comment faire face au handicap, notamment mental, en famille? Comment accepter la différence quand elle vient s'insinuer dans le foyer et bouleverser le quotidien? Nous comptons aujourd'hui d'émouvantes histoires de résilience en famille avec les mots apaisants et apaisés de Frédéric Préel qui dépeint tout en délicatesse sa relation avec son fils Simon, 11 ans, porteur d'autisme, dans le livre « Toi, mon vivant poème » aux éditions Le Duc. Nous sommes également en compagnie de Luc Gâteau, président de l'UNAPI qui accompagne et défend les personnes handicapées mentales et leurs familles. Et également avec nous Anne Juventini-Bernadou, thérapeute familiale qui publie le livre aux éditions Erol, Accueillir un enfant différent en famille. Alors on va retrouver Karim et Lauriane qu'on a entendu tout à l'heure. Lauriane est en fauteuil roulant. Tous les deux sont parents de Lilia, 6 mois. Ils se confient toujours au micro de notre reporter Alice Milot.
Finalement, le héros, entre guillemets, c'est pas nécessairement moi, c'est plus mon compagnon. Je lui demande d'être mes bras, parfois mes jambes. Depuis toujours, et encore plus maintenant. Moi, je suis là pour dire à mon compagnon, fais comme ci, fais comme ça. Par exemple, moi, je veux lui mettre telle robe avec tel gilet, mais c'est pas moi qui fais à terme, donc c'est mon compagnon. Donc, je dois négocier avec lui pour qu'il la vit comme moi, j'en ai envie, parce que lui, il voit pas trop l'intérêt. Et j'ai réalisé, je le savais, hein, mais j'ai réalisé que ça allait être dur parfois, de pas pouvoir faire comme j'en avais envie. En fait, c'est presque tout le temps la frustration parce que moi, j'ai pas la force musculaire de la soulever. Même quand elle est née, elle pesait 2,7 kg, pourtant c'était un poids plume. Et malgré ça, j'ai pas la force, je peux à peine soulever 400 grammes. Donc je peux porter moins qu'un melon, je peux porter un gros livre. Quand elle est dans son lit, qu'elle pleure parce qu'elle s'est réveillée, il faut que j'appelle mon compagnon pour qu'il vienne et qu'il me la donne. Par exemple, une grosse, grosse frustration que j'ai eue, presque à en pleurer, c'est qu'on l'assoie sur moi et qu'on l'attache, parce que je ne peux pas la retenir. Puis plus le temps passe, plus elle bouge, donc moi je la retiens. On l'attache pour pas qu'il y ait d'accident. Et à un moment, sa tête a un peu glissé. Et puis, il suffisait que je la remette un peu, mais je ne pouvais pas. Donc, elle s'est mise à pleurer, juste pour qu'on lui redresse un peu sa tête. Mon compagnon était pas loin, il allait revenir dans les 5 minutes. Ces 5 minutes-là me sont parues interminables parce que je ne pouvais pas l'aider. Elle était dans mes bras, elle pleurait, mais je ne pouvais pas l'aider. Donc ça a été très dur. Mais bon, après, la seconde d'après, on l'a redressée, elle m'a fait un grand sourire et c'était que tout allait bien et qu'elle ne m'en veut pas, parce que c'était plus ça, en fait. Je me disais, ça se trouve, elle m'en veut. Mais c'est que le début. Je pense que je vais avoir pas mal d'étapes comme ça où je vais être frustrée. Après, comme on dit avec mon compagnon, on aura chacun notre rôle. Moi, je sais que je vais pouvoir beaucoup l'aider pour l'école, la sécurité financière, qu'on parte en vacances. Je vais essayer de compenser comme ça, en fait. Le seul moment vraiment qui est extraordinaire pour moi, c'est quand je l'allaite. Et du coup, je l'allaite le plus souvent possible, en fait, quand je ne travaille pas. Et on me dit souvent, tu devrais pas la garder autant dans tes bras, parce qu'elle s'endort sur moi, du coup. Mais ça m'est complètement égal, puisque j'ai besoin de ces moments-là, et elle aussi.
Qu'est-ce que votre fille, elle comprend de cette situation? Elle a 6 mois. Qu'est-ce qu'elle en comprend, d'après vous?
Elle est calme, elle est très patiente. Étonnamment, quand Karim s'occupe de moi, pour m'aider à m'habiller ou des choses comme ça, on l'entend pas. On finit par se dire, bah, peut-être qu'elle elle réalise pas exactement ce qui se passe, mais elle sait qu'elle doit être patiente, que papa et maman sont occupés et qu'ils n'ont pas le choix. Et elle est particulièrement calme.
C'est du taf, hein. Faut gérer le handicap de Lauriane, les situations qu'on a au quotidien, plus la petite, quoi. Moralement, Lauriane, elle est d'une grande aide. C'est facile, en fait. C'est un jour après l'autre, quoi. Et puis maintenant, bah, ça roule tout seul.
Vous avez connu le handicap dans votre famille?
Ouais, c'est pour ça que c'était plus facile avec Lauriane. J'ai connu le handicap avec mon père qui a eu un accident de voiture et qui est tétraplégique. Donc ouais, en ayant connu cette situation-là, en fait, c'est pas pour ça que je me suis mis avec Lauriane, mais Lauriane ne m'a pas fait peur comme bah, beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes, ça leur fait peur de se mettre avec une personne en situation de handicap. Pour moi, c'est normal, quoi. C'est une personne comme une autre, en fait. Puis c'est surtout Lauriane qui m'épate avec la force qu'elle a, quoi. J'ai toujours été épaté par elle. Elle a peur de rien. Donc c'est plus en elle que je trouve ma ressource aujourd'hui. On a un bon binôme, ouais. Je pense qu'on a un bon binôme.
On pense même faire le deuxième, alors. Hein. Pas tout de suite, quand elle marchera.
On l'entend dans ce joli reportage, se pose aussi la question du couple. Et vous l'écrivez, Anne Juventini Bernadou, seulement un couple sur 5, en l'occurrence survie ou handicap de son enfant. Beaucoup de parents se séparent.
Oui, effectivement, c'est vrai que 80% des couples finissent par se séparer parce que c'est trop lourd dans le quotidien. Effectivement, quand on se marie, on a un projet de vie, c'est plutôt un projet de princesse et de prince en général, et il usure beaucoup d'enfants. Et quand l'enfant handicapé paraît, c'est vrai qu'il vient quand même heurter de point fait le projet conjugal et même les projets individuels de chacun, et survivre à ça, c'est pas toujours simple. Et beaucoup de couples, effectivement, se séparent et ne supportent pas le choc.
Frédéric Préel.
Oui, moi, j'ai croisé tellement dans les salles d'attente des thérapeutes, des orthophonistes, de mamans seules. Et moi, j'ai eu cette chance-là que mon mari résiste. Et c'était pas évident parce que les 3 premières années, mon fils, dès qu'il le voyait, hurlait. Donc comment un papa peut résister à ça? Je sais pas comment. Il m'a toujours, j'ai toujours été en première ligne dans le sens pour me battre pour l'école. Mais lui, c'était mon rock et... c'est lui sur lequel je m'appuyais, en fait, et c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, il a écrit une lettre à son fils dans mon livre, et ça, c'était important pour moi aussi.
Et quels conseils vous pouvez donner aux parents qui sont concernés, notamment par rapport à leur couple, Anne Juventini Bernadou?
Déjà, je crois qu'au moment de l'annonce du handicap, ou en tout cas de sa prise de conscience, il faut accepter d'abord que l'autre ne va pas passer le même processus que nous. C'est-à-dire, chacun va faire avec ses propres ressources. Donc, il y en a qui auront besoin de se renseigner beaucoup sur le handicap. Il y en a qui auront besoin de s'investir, d'aller dans des associations. Il y en a d'autres qui auront besoin surtout de calme et de repli. D'autres qui auront besoin de... Voilà. Accepter dans un premier temps qu'on n'est pas sur la même ligne, mais se dire qu'on va se retrouver. Je crois qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent avant de s'être donné la chance de se retrouver. Et une fois qu'on a suffisamment de ressources, c'est le dialogue en fait, c'est toujours la même chose, c'est comment on dialogue ensemble et on arrive à reconstruire un nouveau projet de vie avec cet enfant, c'est ça la clé, je pense.
Et éviter aussi peut-être trop de fusion au sein du couple. De toute façon, conduire à l'isolement.
De toute façon, la fusion, moi je dis toujours entre la fusion et la fission, il n'y a qu'un mot d'écart. Et quelque part, la fusion, c'est jamais la solution, que ce soit dans le bonheur ou dans la détresse. Parce que dans la fusion, il y a la négation de soi. Et quand on commence à se nier, à un moment donné, il y a toujours un problème, c'est que c'est soi ou l'autre. Et c'est jamais une bonne chose. Donc évidemment qu'on va faire front ensemble et qu'on va être peut-être plus rapprochés, mais il faut quand même se méfier aussi de ça.
On n'a pas encore parlé des frères et sœurs. Hein. On peut aussi avoir peur en tant que parent d'accorder plus d'attention à son enfant handicapé qu'aux autres.
Oui, moi, mes deux enfants aînés donc en 12 et 9 ans de plus que Simon, et ça a été ce qui nous a sauvés, entre guillemets, je pense, parce que ils est arrivé à un âge, quand on a découvert l'autisme de Simon, à un âge où ils étaient adolescents. Ils avaient, alors effectivement, pour eux, ça a été difficile, mais surtout, en plus, ils m'ont beaucoup aidée aussi, que ça soit matériellement, en fait, mais aussi psychologiquement. Alors, je ne m'en suis pas servie comme de psy, mais à eux, je pouvais raconter des choses que je ne pouvais pas dire à d'autres personnes. Et puis, leur regard sur leurs frères m'aidait aussi, parce qu'ils n'ont pas la même relation avec leurs frères. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont vraiment été d'un... Franchement, sans eux, je ne m'en serais pas aussi bien sortie.
Et puis, ils apprennent aussi la tolérance du gâteau.
Les frères et sœurs sont remarquables dans l'accompagnement, l'accueil. Et aujourd'hui, moi, je vis une génération de plus, c'est-à-dire que j'ai des petits-enfants qui côtoient Jessica, et ça me permet aussi qu'ils voient ce qu'est le handicap. Je crois qu'il y a un besoin d'un vécu ensemble, tout simplement. Le vivre ensemble est important.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et nous sommes en ligne avec Aimé à Douala. Bonjour Aimé.
Bonjour.
On vous écoute.
Je m'appelle Aimé Raymond, j'ai 33 ans. Je vis avec un handicap depuis la petite enfance. J'avais 1 an lorsque j'ai eu une polio, suite à mon rappel de vaccin contre la polio.
La poliomyélite.
La poliomyélite, voilà. Dans les premiers moments, c'était un peu difficile. Ma mère perd son mari quelques temps après. C'était compliqué pour elle de m'éduquer très facilement. Et les conditions socio-économiques n'étant pas favorables, donc beaucoup lui disaient de m'abandonner, de me laisser dans un orphelinat, dans un centre spécialisé, ce qu'elle n'a pas fait. Elle m'a élevé comme tous les autres enfants. Et il y a 6 ans, je vais à l'école et quelques années plus tard, j'ai eu mon premier diplôme, puis je suis à l'université. Aujourd'hui, je suis le président d'une association qui fait dans l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap, dénommée ADIFAN. Et nous faisons des projets pour venir en aide à cette frange de la population.
Et vous êtes sur deux béquilles ou en fauteuil. Est-ce que, en termes de vie de couple, que se passe-t-il de votre côté? Est-ce que vous avez une petite amie?
Oui, déjà, j'ai une petite amie. Et c'est vrai qu'au départ, c'était un peu compliqué parce que les filles, lorsqu'elles ont un copain en situation de handicap, c'est pas toujours évident le regard des autres. On va toujours leur demander, mais pourquoi tu es avec cette personne? Il va pas danser, il va pas te porter. Et il sera parfois un facteur gênant. Mais moi, j'ai pu transcender cela. J'ai des amis comme tout le monde. J'ai une petite copine. Et on compte faire des enfants, se marier. Bon, voilà. Comme toute personne normale.
Sans barrière, sans obstacle.
Voilà que. En fait, ça commence par l'éducation. Parce que lorsque vous avez un handicap et que vous vous considérez comme une personne assez différente, parce que le handicap, pour moi, a toujours été un atout. Je parle de cela sans gêne. Et puis, les personnes me considèrent comme moi, je me considère. Ce n'est pas une barrière pour moi. Et généralement, lorsqu'on se fait une barrière soi-même, les autres aussi, ils érigent une barrière encore plus grande.
Merci, merci pour ce témoignage très sage, aimé. Anne Juventini-Bernadou, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Que ça soit le témoignage de Lauriane ou le témoignage d'Aimé, je crois que ça montre à quel point on est dans le cliché quand on pense qu'avoir un handicap, c'est être faible. En fait, même s'il y a une vulnérabilité physique, ça n'empêche pas d'avoir une grande force morale. Et voilà, je crois que c'est très encourageant.
Frédéric Préel.
C'est vrai que c'est grandir avec le regard des autres qui est différent sur nous. Je pense que ça donne une force aussi, que ce soit un handicap mental ou un handicap physique. Une fois qu'on a traversé ça, on est capable de traverser plein de choses.
Et un jour, justement, votre fils Simon vous a demandé est-ce que je suis autiste ou normale, puisque à l'école, on l'avait traité d'autiste.
Ouais.
Qu'est-ce que vous lui avez répondu?
Je lui ai dit d'abord, tu n'es pas autiste, tu es Simon. Donc effectivement, ton cerveau est un peu différent et tu as des troubles autistiques. Bon, il est aussi dyspraxique, il a un TDAH. Donc je lui ai dit, voilà, ton cerveau est différent, mais ce n'est pas ça qui te définit. Je dis ça doit jamais, tu dois jamais porter ça comme un handicap, mais plus comme une différence, et on est tous différents.
Même si certains élèves peuvent lui renvoyer ça à l'école.
Oui, c'est vrai que c'est... bon, il a assez bien géré ça, mais c'est vrai que le mot autisme, je ne l'ai pas prononcé. J'ai eu du mal à le prononcer avec lui, en fait. Et j'ai attendu qu'il me pose la question. Parce que lui-même, quand je disais, t'as un cerveau un peu différent, des fois, il pouvait pleurer, se mettre en colère, dire « mais non, je suis comme les autres » et tout. Donc, j'attendais que ça vienne de lui, parce que, justement, il avait été pas mal... le regard des autres le blessait, et du coup j'attendais que la question, je savais qu'elle allait arriver un jour, mais j'attendais que ça vienne de lui.
Alors on va accueillir un autre voisin tout de suite, Sidi à Dakar. Bonjour Sidi.
Non mais tu n'es pas gentil.
Sidi, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes non-voyant et on l'entend, papa.
Ouais, mes enfants sont là encore, voilà. Vous voyez les enfants avec un handicapé, c'est très difficile. Vous allez bien.
Alors, vous avez 6 enfants. Comment vous les gérez? Comment vous faites?
Écoutez, là, je pense que les plus jeunes posent problème, surtout avec les grandes vacances. Papa par-ci, papa par-là. Il faut que papa intervienne, qu'il régente, qu'il joue son rôle de père de famille. Et là, c'est pas facile. Hein. Bon, parce que les enfants sont des enfants, ils sont dans un espace... plus ou moins réduit, pour discuter, et puis voilà, il faut qu'ils jouent, la télévision, et tout régenter, et puis c'est pas facile, hein, je vous assure.
Ils sont turbulents, je crois que le dernier a 4 ans, c'est ça?
Ouais, il a 4 ans, assez têtu, hein, voilà, donc voilà, lui, il aime bien les téléfilms, ben là, c'est toute une bataille, chacun veut voir la série qu'il préfère, l'autre non, enlever ça, bon ben voilà, c'est toute une journée, mais c'est fatigant. Mais c'est comme ça, on y peut rien, voilà.
Et comment vous faites justement pour gérer le quotidien, vous qui êtes non-voyant?
C'est très difficile, hein, on est dans un pays sous-développé. Moi qui vous parle, je suis le romancier non-voyant, auteur de 2 livres, édité un en France, un matin en France et Sénégal. Et donc, politicien, bon, j'essaie de me doubler. Mais j'avoue qu'en fait, c'est pas facile, hein, parce qu'à la limite... il faut donner du temps aux enfants et que c'est moi qui suis handicapé, c'est pas eux. Il faut leur donner toutes leurs chances pour réussir. Dans un pays où l'handicap est systématisé, etc., pour la vie, il paraît. Et donc, partant, bon, c'est extrêmement difficile. Mais comment réussir sa mission d'homme, de père, d'éducateur, etc. Bon, mes grands enfants, je n'ai une qui a 2 qui ont fait leur Master 2, d'ailleurs, qui ont fait leur Master 2 en management et en droit, vous dites simplement que depuis 30 ans que je suis dans la nuit, c'est pas évident.
Mais vous y arrivez tant bien que mal. Merci beaucoup, Sidi, pour ce témoignage. Vous voulez réagir? Duventini et Bernadou.
Quand j'entends ça, ça me fait penser au proverbe qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Et effectivement, c'est difficile, mais de toute façon, la vie est difficile. Et c'est vrai que le handicap, il y a quelque chose de plus visible, mais je crois qu'on est tous confrontés à des difficultés, qu'il y a quelque chose qui renforce aussi. Et ça peut être aussi une chance de réussir à dépasser ça. Et pour lui, et puis pour ses enfants aussi, de voir l'exemple de ce père qui a à cœur de remplir sa mission malgré les difficultés.
Alors, il y a aussi une question qui se pose, c'est la vie future qu'on peut envisager pour son enfant quand il est porteur de handicap. L'accès à l'école ordinaire peut être un combat, et vous l'avez mené avec succès, Frédéric Préel. Comment ça s'est passé pour votre fils ?
Alors, quand vous dites la difficulté, c'est de penser à l'avenir de son enfant, il y a un pédopsychiatre qui m'avait donné un conseil et que j'ai toujours... c'est de pas trop se projeter, parce que sinon, c'est un mur d'angoisse qui vient se... Donc là-dessus...
On procède étape par étape.
Étape par étape, voilà. S'il m'a dit, de toute façon, personne n'est capable de vous dire si demain il sera autonome, si demain il pourra passer son bac, il faut juste l'accompagner au jour le jour et il va progresser, et voilà. Donc ça, c'est la première règle que je me suis appliquée. Après, pour l'école, effectivement, on ne voulait pas le faire passer en CP, donc à l'école, je me suis battue comme une lionne. Je suis quelqu'un d'assez timide, assez réservé, mais là, j'avoue que j'ai sorti toutes les griffes. Et puis, j'ai rencontré surtout de belles personnes qui m'ont aidée, qui m'ont accompagnée. Voilà, quand ils n'ont pas voulu le faire passer en CP, alors que tous les thérapeutes disaient il faut le faire passer en CP, ils savaient lire depuis l'âge de 4 ans, mais ils ne savaient pas dessiner un bonhomme. Il ne sait toujours pas dessiner un bonhomme à 11 ans, donc si on avait attendu qu'il sache dessiner un bonhomme, il ne serait jamais passé en CP. Et j'ai essayé de trouver une école, une directrice empathique et qui allait l'accompagner. J'ai eu la chance de trouver cette directrice de cette école, et vraiment il a eu un parcours scolaire qu'il faut se battre. Mais ce qui est difficile aujourd'hui, c'est se dire que finalement la scolarisation des enfants avec autisme notamment repose sur l'empathie, la bienveillance des personnes qu'on va rencontrer, les enseignants, les directeurs. Sinon, il n'y a pas grand-chose pour accompagner. Les AVS, on sait qu'on en manque.
Les auxiliaires de vie scolaire.
Les auxiliaires de vie scolaire.
Qui viennent avec les enfants, en fait.
Voilà,
en classe,
donc moi, Simon, il avait une auxiliaire de vie scolaire 12 heures. Il aurait fallu qu'il ait quelqu'un à plein temps. Mais de toute façon, dans le département où j'étais, c'était maximum 12 heures. Voilà, donc c'est comme ça. Donc voilà, et après, il a fallu se battre pour trouver un collège qui veuille bien l'accueillir. Et c'est le quotidien des parents, et c'est aussi ce qu'on disait avec Anne tout à l'heure, c'est que c'est une chance, pour moi c'était une chance d'avoir un enfant différent, dans le sens où il m'a appris plein de choses, il m'a appris à me battre, il m'a appris la tolérance, il m'a appris à accepter la différence, ma propre différence à moi. Et je pense que toute l'énergie qu'on met pour se battre pour nos enfants, en même temps nos enfants nous rendent des choses au centuple.
Anne Juventini-Bernadou, vous écrivez « Un beau jour de 2015, je me suis aperçue qu'il n'y avait plus de combat, que la dépression sous-jacente avait laissé place à un sentiment plus serein, quelque chose qui ressemblait au bonheur. Et pourtant, ma fille n'avait pas fait de progrès fulgurant. » Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que cette douceur, cette acceptation arrive dans votre vie ?
Bon, en fait, je ne m'en suis pas aperçue. Je dis vraiment, un matin, je me suis levée et en fait, ça faisait... plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois en fait, que les choses allaient mieux. C'est vraiment à un moment donné, je suis passée d'une énergie du combat et de la colère qui ont été nécessaires à un moment donné, parce qu'il a quand même fallu mobiliser beaucoup d'énergie pour notamment pour trouver une place en IME pour ma fille. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, peut-être aussi en voyant d'autres amis qui avaient des enfants entre guillemets normaux, qui avaient pas de problème dans leur vie, qui avaient l'air d'être très déprimés, à me retrouver à les consoler de leurs problèmes. Et puis comme je suis thérapeute, c'est vrai que je reçois quand même des gens qui vont pas bien. Puis je me dis, mais finalement, tous ces gens qui ont tout, entre guillemets, pour être heureux et qui ne le sont pas, et toi qui finalement pourrais n'avoir pas grand-chose pour l'être, et qui arrive à te lever et à être heureuse dans un tête-à-tête avec tes enfants, avec ton mari, bah, je me suis dit, en fait, c'est ça, y a le combat, c'était ça, et il est passé inaperçu, en fait.
Et vous vous dites que vous vous sentez plus libre aujourd'hui.
Ah oui, par contre, ça c'est clair, que moi je dis toujours que je ne sais pas si je fais grandir ma fille, mais elle m'a fait grandir et elle m'a libérée complètement de la norme et du regard des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'existe plus pour moi. C'est vraiment un référentiel. Ce qui compte, c'est à l'intérieur de moi. Le reste, ça fait partie de la réalité, mais ça ne doit pas m'empêcher de vivre, quoi.
Merci, merci à vous Anne-Juventini Bernadou, merci Frédéric Préel, Luc Gâteau d'être venu distiller un peu de sagesse dans notre émission, d'avoir illuminé notre studio. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Romain Dubrac, Cécile Lavolo, Sigrid Azerwal, merci aussi à Léa Delfolie, merci à vous bien sûr les voisins et les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, la haine à portée de clic. Internet crée des héros mais aussi des cibles faciles. Comment se manifeste cette haine sur Internet? On en parle demain les voisins.